Le propos ce soir, comme le nom de la conférence l'indique, c'est de se placer d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire essayer de voir d'un double point de vue, du point de vue européen et du point de vue onusien, comment est perçu notre principe de laïcité. Voilà le propos. Donc essayer de voir avec une optique extérieure. Alors sur le point de départ, il faut prendre comme point de départ les sources internationales très très rapides qui protègent ou qui concernent le fait religieux. Les sources essentielles, on trouve la protection de la liberté de religion, c'est pas très étonnant, dans tous les textes internationaux. On trouve ça dans l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pacte onusien sur les droits civils et politiques de 66, l'article 18, ou plus récemment, c'est l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui protège de manière, avec des termes un peu variés, mais qui protège à peu près le même cœur de droits, c'est-à-dire la liberté de croyance et de religion, et la liberté d'exercice de ces croyances et religions. Premier constat, ces sources, qu'elles soient européennes ou onusiennes, ne nous imposent et n'imposent à personne aucun choix particulier sur l'articulation entre les autorités publiques et les religions. Il n'y a pas de choix imposé sur un principe de laïcité ou de non-laïcité ou une organisation spécifique. Alors ça veut dire qu'a priori le droit français est tout à fait conforme à ce principe de liberté de religion. Je rappelle l'article 10 de la DDHC de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc ça c'est la disposition historique. Et on apprend dès qu'on ouvre la Constitution de 58 que la Constitution de 58 fonde une république laïque, et, je cite, toujours l'article premier, qu'elle respecte toutes les croyances. Alors certains l'ont dit, et j'aime bien cette expression, même si elle n'est pas totalement juste, la France aurait mis en place un principe d'indifférence vis-à-vis du fait religieux, en tout cas, d'indifférence publique vis-à-vis du fait religieux. C'est l'article 2 de la loi de 1905, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, donc c'est un autre moyen de dire la laïcité. Mais le fait religieux, au point de vue international, est concerné d'un autre point de vue, et celui-là va probablement nous poser plus de problèmes, nous donner plus de fil à retordre, vous allez le voir dans cette intervention, puisque la religion est également un facteur de non-discrimination. C'est un critère de non-discrimination. Si on reprend nos sources internationales, Convention européenne des droits de l'homme, pacte, et là cette fois-ci les deux pactes, pacte sur les droits civils et politiques et pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, charte des droits de l'Union, des droits fondamentaux de l'Union européenne, on trouve une interdiction de discriminer, entre autres, à raison de la religion. Donc c'est à la fois un droit à avoir sa religion, à l'exercer, et un droit à ne pas être discriminé du fait de sa religion. On va le voir, la France, vis-à-vis de ses obligations internationales, a connu un glissement, a connu un changement de perspective. On est aujourd'hui dans une phase qu'on pourrait appeler une phase de crispation vis-à-vis de la laïcité française, et tant, on va le voir, au plan européen qu'au plan international. Alors avec des points de départ qui sont tout à fait clairs, le premier point de départ, c'est le milieu des années 90, on va y revenir avec la lutte contre le fait sectaire ou la lutte contre les sectes, qui va commencer à nous poser quelques problèmes de perception au plan international, et surtout, et là on va avoir un durcissement de la position internationale et quelques soucis aussi du point de vue européen, c'est la loi de 2004 qui prohibe un certain nombre de signes religieux à l'école, la loi du 15 mars 2004. Certaines de mes collègues l'ont dit, et j'aime bien cette expression, c'est dans l'ouvrage extrêmement stimulant qui vient de sortir de Stéphanie Annette Vauchez et de Diane Roman, « Droits de l'homme et liberté fondamentale », mes deux collègues parlent d'une laïcité sous tension, avec un pacte laïque qui est en passe d'être redéfini. Je crois qu'on a ici ce basculement, laïcité sous tension et un pacte laïque qui est en train d'être redéfini. Au départ de cette redéfinition, on trouve des discours qui sont rentrés dans le panthéon des grands discours de la République. Je suis pas sûr que ce soit pour les bonnes raisons, mais ça, c'est une parenthèse personnelle que je referme immédiatement. Le premier discours, c'est un discours de Jacques Chirac en décembre 2003. Jacques Chirac nous dit que la laïcité française, je cite, est une laïcité apaisée. Mais, on poursuit, toujours le même discours, toujours Jacques Chirac, on ne saurait tolérer que sous le couvert de liberté religieuse, on conteste les lois et principes de la République. Et il pointe ici les problèmes rencontrés par les musulmans dans l'exercice de leur liberté religieuse, et il réaffirme la laïcité à l'école. Donc on a une laïcité qui est officiellement apaisée, mais une laïcité qui pointe quelques tensions dans le discours présidentiel. Le deuxième discours présidentiel, non moins fameux, c'est le désormais devenu classique discours de l'ancien président Nicolas Sarkozy en décembre 2007, discours tenu au Palais du Latran, dans lequel le président prône, je cite, une laïcité positive. Alors là aussi, il y a deux versants qui, je cite l'ancien président, considèrent que les religions ne sont pas un danger mais un atout, mais en même temps, dans le même discours, qui indique que la France ne peut pas se couper de ses racines chrétiennes sous peine d'affaiblir le ciment de l'identité nationale, avec ensuite un certain nombre de dérapages sur le curé qui sera toujours plus important que l'instituteur, etc. Un discours un petit peu sujet à caution, me semble-t-il, mais je referme une deuxième parenthèse personnelle. Je referai pas mal de parenthèses personnelles, j'essaie de les ouvrir et de les fermer pour que ça soit à peu près compréhensible. Discours présidentiel, pourquoi pas? Le problème, c'est que ces discours vont être suivis par la loi. Ils vont être suivis d'actions du législateur. Et on a ici, clairement, un législateur qui va embrayer sur ces discours, sur cette redéfinition de la législation, de la laïcité, pardon. On a clairement, dans l'optique de ces discours, la loi du 12 juin 2001, qui vise à renforcer la prévention et la répression contre les mouvements sectaires. On est un petit peu avant le discours de Jacques Chirac de 2003, mais on est à la même période, donc. Loi du 12 juin 2001, lutte sur les mouvements sectaires. Beaucoup plus directement, je rappelle le discours de Jacques Chirac, décembre 2003, et là on a une loi du 15 mars 2004, j'en ai déjà parlé, vous la connaissez, qui encadre le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Le titre officiel de cette loi. Et la dernière, et là on a un petit décalage par rapport au discours de Latran, mais on est dans la même optique, loi du 11 octobre 2010, dont on a entendu parler ces jours-ci, à nouveau, qui porte interdiction de la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public. Alors ces nouvelles postures, ces nouveaux discours présidentiels, et surtout ces nouveaux dispositifs législatifs, entraînent, je vous l'ai dit il y a quelques instants, des difficultés, à l'évidence, notamment dans le cadre onusien. Et ici on peut citer, on citera cette institution à plusieurs reprises, on peut citer la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la liberté de religion. L'ONU, depuis maintenant une trentaine d'années, a développé ce qu'on appelle les mandats thématiques, c'est-à-dire la nomination d'experts qui soit contrôlent un pays, experts par pays, ou soit contrôlent un droit particulier, les droits des femmes, la prohibition de la torture, les personnes d'ascendance africaine, etc. Et au total, il y a 49 mandats actuellement, dont le rapporteur spécial sur la liberté de religion. En 2006, voilà ce que dit cette rapporteuse spéciale sur la liberté de religion à l'issue d'un voyage en France en 2005. Et il n'y a pas de hasard de calendrier. Loi de 2004 qui prohibe les signes religieux, à l'école, visite de la rapporteuse spéciale en 2005 et rapport en 2006. Elle nous dit, cette rapporteuse spéciale, que le contexte de la France contemporaine n'est plus celui de 1905. Il n'est plus celui de 1905, pourquoi? Parce que la France connaît des douzaines de communautés religieuses différentes, ce qui oblige la France à effectuer deux mouvements, nous dit cette rapporteuse spéciale. D'une part, la France doit mieux développer son concept de laïcité pour mieux respecter le pluralisme religieux. Donc, première invitation, la France doit mieux développer le concept de laïcité afin de mieux respecter le pluralisme religieux. Et deuxième axe de travail ou de réflexion pour la France doit modifier ses politiques publiques. La France doit modifier ses politiques publiques. On a ici une idée qu'on va retrouver ensuite, c'est l'idée d'une obsolescence, en tout cas partielle, de la loi de 1905, qui a été établie dans un contexte particulier, celui de cantonnement d'une religion majoritaire avec une république naissante, et qui, à l'évidence, n'est plus celui du début du XXe siècle, avec des enjeux qui sont différents. Les crispations dont je vous ai parlé sont aujourd'hui de deux ordres, à mon avis, et on va travailler sur ces deux points. Il s'agit tout d'abord de ce qu'on appelle, là je reprends le vocabulaire international, il s'agit de la prise en compte des nouveaux mouvements religieux par le droit interne. Nouveaux mouvements religieux par le droit interne, ce que nous en France, on va le voir, et déjà le vocabulaire n'est pas innocent, on va appeler plutôt les sectes. Le droit international et le droit européen appellent ça des nouveaux mouvements religieux. Donc premier point de crispation. Et deuxième point de crispation, ce sont ces nouveaux dispositifs législatifs, notamment la loi de 2004 et la loi de 2010, qui visent à renforcer la laïcité et qui nous posent problème vis-à-vis, en particulier, des Nations Unies, mais peut-être aussi, à relativement court terme, dans le cadre du Conseil de l'Europe. Donc premier point sur la prise en compte des nouveaux mouvements religieux par le droit français. 1996, quelques balises historiques tout à fait rapides. 1996 en France, mise en place d'un observatoire interministériel sur les sectes, qui va se transformer en 1198, on passe vite, et surtout, en 2002, mise en place du mécanisme actuel qui s'appelle la MIVILUDES, M-I-V-I-L-U-D-E-S, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. L'intitulé est transparent, le dispositif vise à lutter et à prévenir les dérives sectaires, avec tout de même un problème considérable. La France n'a jamais défini, le droit français n'a jamais défini ce qu'était une secte ici, et donc on a un élément pour certains de souplesse, pour d'autres d'ambiguïté vis-à-vis de cette lutte contre les sectes. Cette période qui s'ouvre à partir de 96 va entraîner ce que j'ai appelé une surveillance onusienne. On est clairement sous surveillance de l'ONU à partir du moment où la France va décider de surveiller et de pénaliser ces nouveaux mouvements religieux qui peuvent être des sectes pour le droit français. Alors ici, deux références. Vous allez le voir comment ça évolue assez rapidement. Le rapporteur spécial contre toutes les formes d'intolérance. Voilà notre rapporteur spécial. Le rapporteur spécial de l'ONU contre toutes les formes d'intolérance rend un rapport en 1991 où il nous dit deux choses. La France établit, je cite ce rapport, une claire distinction entre les religions et les sectes. Et elle relève donc d'un modèle unique. Voilà ce que dit ce rapporteur spécial, 1991, rapporteur spécial contre toutes les formes d'intolérance. Donc, un constat objectif, neutre, la France relève d'un modèle unique, c'est un État qui promeut la laïcité, notamment elle distingue religion et secte. Mais il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de condamnation de la France, c'est un choix qui est opéré par les autorités françaises. Deuxième étape, deuxième vision, 1997, rapporteur spécial sur la liberté de religion, dont je vous ai déjà parlé, son rapport annuel. Ce rapport nous indique, d'une part, que les sectes sont ou ne sont pas plutôt en dehors du droit. Les sectes ne sont pas en dehors du droit, et le mot secte est employé dans ce rapport, et l'État peut légiférer, nous dit ce rapporteur spécial, pour pénaliser l'escroquerie, l'abus de confiance, la violence, la non-assistance à personne en danger, pour protéger les mineurs, pour prohiber l'exercice illégal de la médecine, etc. Il y a tout un tas de motifs qui sont listés par ce rapporteur spécial et qui correspondent effectivement aux dérives les plus fréquentes des sectes. Mais bémol dans ce rapport immédiatement. Ce rapporteur spécial en 97 précise de manière très très claire qu'il n'est pas du rôle de l'État d'agir en tant que gardien de la conscience des individus. C'est-à-dire en encourageant ou en imposant ou en censurant une quelconque religieuse ou conviction. Donc on passe d'une lutte contre les sectes légitime, probablement, en tout cas atypique, mais sans problème particulier en 91, à une dérive, à l'évidence, vue par l'ONU à partir de 97, la France censure de manière excessive des nouveaux mouvements religieux et classe, de manière péremptoire, sans critères vraiment prédéfinis ou incontestable entre mouvement religieux ou mouvement secte. Si l'on reprend le rapport 2006 de la rapporteuse sur la liberté de religion, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, le rapport est encore plus accablant vis-à-vis de la France. Cette rapporteuse spéciale nous dit que la politique française de lutte contre les sectes a provoqué une stigmatisation des membres de certains groupes religieux. Et là, il nous parle notamment des scientologues et des témoins de Jéhovah. D'où, nous dit toujours cette rapporteuse spéciale, des discriminations, notamment à l'égard des enfants. Et ce même rapport de 2006 pointe quelque chose qui va tout à fait clairement aboutir à un blocage dans le cadre de l'ONU. C'est une liste parlementaire qui avait été établie à la suite d'une mission d'enquête parlementaire en 1995, qui avait rendu publique une liste de 173 mouvements qualifiés de sectes. Alors avec des éléments de classification qui étaient probablement sujets à caution, des classements où on trouvait à la fois des mouvements religieux, ésotériques, des vraies sectes extrêmement dangereuses, et il y avait 173 mouvements, certains comportant 3 membres et d'autres plusieurs dizaines de milliers de fidèles, donc ici une liste assez disparate. Et toujours dans ce rapport 2006 du rapporteur spécial sur la liberté de religion, cette rapporteuse nous dit que cette liste a créé un climat de suspicion et d'intolérance en France vis-à-vis des communautés inscrites sur la liste, d'où deux demandes adressées aux autorités françaises. On est dans de l'incitation ici, hein, évidemment, on n'est pas dans des mécanismes coercitifs ou qui peuvent condamner la France à quoi que ce soit. L'ONU essaie par ses rapporteurs spéciaux de rappeler les États à leur comportement d'États membres et à essayer d'inciter un certain nombre de modifications. Donc deux invitations faites à la France. D'une part, abandonner la liste, ça c'est l'invitation la plus claire, et surtout, si la liste est maintenue, ne plus engager de poursuites judiciaires sur la base de cette liste. Le contenu de la liste est trop discutable. Il peut y avoir des poursuites judiciaires vis-à-vis de mouvements dangereux, mais pas sur la base de cette liste, qui est une liste fourre-tout, qui est une liste trop disparate, qui contient des mouvements qui, à l'évidence, ne sont pas tous des sectes, ou en tout cas pas tous dangereux. Donc, point de crispation à l'évidence vis-à-vis du plan onusien. Vis-à-vis de l'Europe, maintenant, vis-à-vis du Conseil de l'Europe, les choses sont a priori plus simples, parce que le Conseil de l'Europe, dans le cadre du Conseil de l'Europe, la Cour européenne et avant elle la Commission européenne des droits de l'homme ont posé un certain nombre de principes qui semblent tout à fait conformes à notre perception, à notre vision de la laïcité. On trouve dans un arrêt contre France de 2000, un arrêt Shaare Shalom v'Tzedek, on trouve dans cet arrêt de 2000 la position suivante. Les États du Conseil de l'Europe, les 47 États membres, possèdent, en tout cas 47 aujourd'hui, ces 47 États membres possèdent une marge d'appréciation, notamment pour l'établissement des délicats rapports entre l'État et les Églises. Donc les États ont une marge d'appréciation, notamment pour ce qui est de l'établissement des délicats rapports entre l'État ou dans cet ordre, entre les Églises et l'État, nous dit cet arbre. Donc les États ne sont pas totalement libres, il y a un contrôle européen, mais ici, on est dans un domaine où la Cour européenne ne veut pas imposer un standard commun, elle ne veut pas imposer un modèle religieux aux 47 États membres. Donc, laïcité ou pas laïcité, on est dans le domaine ici du choix des États protégés par la marge nationale d'appréciation. Bien plus, dès 1996, la Commission européenne des droits de l'homme, dans une décision Universelles Leben contre Allemagne, la Commission avait clairement indiqué qu'un État peut classer une association comme secte, et le terme secte est employé, s'il faut combattre un certain nombre de conduites qui sont incompatibles avec la liberté de religion. Donc, marge d'appréciation des États pour régler le fait religieux, j'emploie une expression volontairement générale, et légitimité de la lutte contre les faits sectaires lorsque l'association qui se prétend religieuse est en fait une association dangereuse qui va porter même atteinte à la liberté de religion. Et donc, on a ici un brevet de lutte contre les sectes qui est délivré par la Commission, donc avant même l'arrêt de principe de 2000, dès 1996. Mais cette double référence doit être comprise également avec une jurisprudence assez abondante de la Cour européenne des droits de l'homme qui essaie d'adopter une position de neutralité vis-à-vis des croyances religieuses. Et cette position d'indifférence vis-à-vis des croyances religieuses, c'est celle de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça doit être également celle des États. On a ici un arrêt de référence, un arrêt de grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme de 2005, un arrêt assez connu notamment dans sa version précédente de section, puisqu'elle avait été mentionnée par le Conseil constitutionnel dans une décision, de manière d'ailleurs un peu imprudente. Cet arrêt de grande chambre de 2005, c'est l'arrêt Leyla Sahin contre Turquie. Voilà la formule que la Cour, qui aime bien forger ces grandes formules emblématiques, un peu emphatiques parfois, utilise maintenant de manière constante. L'État doit être, je cite, « un organisateur neutre et impartial de l'exercice des diverses religions, cultes et croyances. » L'État est un organisateur neutre et impartial de l'exercice des différentes religions, cultes et croyances. Alors, ce qui a conduit la Cour européenne, et même avant elle la Commission, à reconnaître comme étant protégée par l'article 9 de la Convention, liberté de religion, tout un tas de mouvements. On trouve la scientologie, on trouve les mormons, on trouve des églises chrétiennes sous tout un tas d'appellations, on trouve également l'athéisme qui est protégé en tant que mouvement, ici assimilé à liberté de croyance. On trouve, alors il y a mieux encore, le druidisme, protégé également par la Convention européenne des droits de l'homme, la scientologie, qui me paraît personnellement surtout être un mouvement censé là pour pomper le fric des fidèles, mais ça c'est également une vision personnelle du mouvement de la scientologie. Je referme la troisième parenthèse personnelle. Et on trouve, alors la liste n'est pas close, mais ceux-là ce sont les mieux que j'ai pu trouver. On trouve une secte que je connaissais pas avant de travailler là-dessus, qui s'appelle la Divine Light Zentrum, qui avait été reconnue comme mouvement religieux par la Commission en 1981. Sauf que cette secte est bien connue en Suisse parce que les membres de la secte avaient essayé de descendre par balle un conseiller d'État à Zurich quelques années avant. Et donc, mais la Commission européenne nous dit que c'est un mouvement religieux. Non, j'ai oublié mon préféré quand même. Alors le grand maître est mort, je le regrette, mais on peut trouver ses traces sur YouTube toujours. Donc c'est un grand moment. Si vous êtes déprimé un soir, regardez ça. C'est l'homisme. Et donc ici, la secte qui avait été créée par Gilbert Bourdin et le Mandarome. Je ne porte pas de jugement, évidemment, vous l'aurez compris, sur ces mouvements, nouveaux mouvements religieux, notamment celui-là. La Cour européenne, donc, va systématiquement, et on le reverra après également, éviter de trancher sur le sérieux du mouvement religieux, sur l'ancienneté du mouvement religieux. Vous avez, par exemple, entre autres, un arrêt assez récent, Kimlia contre Russie de 2009, qui concerne les scientologues en Russie, et ce groupe n'a pas pu être reconnu en Russie parce que il y a une législation russe qui exige qu'il faut être inscrit sur des dispositifs particuliers depuis au moins 15 ans pour pouvoir prétendre être un groupe religieux reconnu en Russie. Et la Cour européenne estime ce dispositif excessif, et la Cour européenne, dans tout l'arrêt, appelle ce groupe un groupe religieux, donc protégé par la liberté de croyance. Le contenu de la scientologie n'intéresse pas la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un groupe religieux, et on est dans le cadre de la protection de l'article 9. Alors, si l'on couple à la fois Universelles Leben Shaare Shalom Vetzedek et Leila Saïn et autres, et Kim Lia, on trouve des applications relativement compliquées, et notamment concernant la France. Et on s'est aperçu que la France a fait l'objet d'au moins deux applications, je prends des groupes d'applications, de ces jurisprudences de principe qui montrent que là aussi la laïcité ne cadre pas totalement, comme dans le cadre onusien. La première affaire, c'est une affaire qui date un petit peu, qui est une affaire de 2003, une affaire Palao-Martinez contre France. Il s'agit d'une femme qui ne peut pas obtenir la garde de ses enfants après un divorce parce qu'elle est témoin de Jéhovah. Et la cour d'appel de Nîmes, qui avait statué sur cette demande, avait relevé les qualités éducatives de la requérante, c'est indiqué en toutes lettres, mais en même temps avait indiqué qu'il ne fallait pas que cette mère ait la garde de ses enfants, je cite, parce qu'il était de l'intérêt des enfants d'échapper aux contraintes et interdits imposés par une religion structurée comme une secte. La position de la cour d'appel de Nîmes, je crois que c'est un arrêt de 1998 de mémoire, donc reconnaissance du fait que la requérante est une bonne mère, entre guillemets, mais elle est témoin de Jéhovah, et donc il faut mettre les enfants à l'écart des témoins de Jéhovah. Pour la Cour européenne, ce jugement est un jugement, je reprends les termes de la Cour, in abstracto, qui est fondé sur des conditions, des considérations pardon, d'intérêt général, et qui entraîne une discrimination de la requérante, à la fois dans sa vie familiale, article 8, et dans sa liberté de religion, article 9. Donc la France est condamnée. Là encore, la Cour ne porte pas du tout de jugement sur les témoins de Jéhovah. Est-ce que c'est bien, mal, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, vraie religion, fausse religion. C'est pas le problème, c'est un groupe religieux. Et ici, les juridictions internes ont adopté une position trop générale qui viole à la fois les articles 8 et 9. Plus près de nous, des affaires de 2011, association Les Témoins de Jéhovah contre France, et surtout 2013, alors qui porte de chouettes noms, Association cultuelle du Temple Pyramide, Association des Chevaliers du Lotus d'Or, Église évangélique missionnaire et Salon, enfin, les arrêts de 2013. La France est condamnée ici pour un problème fiscal, mais qui n'est pas un problème fiscal en réalité. La France refuse que les associations requérantes puissent voir les dons qui sont versés à ces associations considérés comme des dons manuels à des associations religieuses et donc exemptés d'impôts. Voilà le problème ici, et c'est un problème qui est un enjeu très financier ici. La Cour nous dit que la France, en refusant donc cette exonération des dons manuels, en taxant d'office les dons manuels, a coupé les ressources vitales des associations qui ne sont plus en mesure d'assurer concrètement à leurs fidèles le libre exercice du culte. Fidèles, culte, on est dans le cadre de groupes religieux. Là encore, neutralité absolue de la Cour. Et la Cour poursuit et termine. Or, les dons litigieux constituent l'essentiel du financement de l'association par les fidèles. Donc cela coupe ici la possibilité de développement de nouveaux mouvements religieux avec une politique fiscale qui est excessive. Et donc, là encore, violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Là encore, à aucun moment, la qualité, l'intérêt, la dangerosité du mouvement religieux n'est prise en compte par la Cour. C'est un mouvement religieux et le dispositif législatif français dans le code fiscal, le code des impôts, le code général des impôts est excessif. Deuxième type de problème, maintenant, ce sont donc les nouveaux dispositifs législatifs qui sont censés renforcer la laïcité, à savoir la loi de 2004 qui prohibe les signes religieux ostensibles à l'école et la loi de 2010 qui interdit la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public. Vis-à-vis de ces deux lois, la position des Nations Unies est tout à fait claire. La France s'est orientée, je reprends les termes issus de plusieurs rapports, la France s'est orientée vers dans une laïcité stigmatisante. On trouve ici l'idée selon laquelle les dispositifs qui sont présentés par la France à chaque fois qu'elle doit se défendre là-dessus comme des dispositifs neutres qui protègent la laïcité, qui protègent les caractéristiques de la République, en fait, ces dispositifs sont vus par l'ONU comme des dispositifs qui stigmatisent certaines minorités. On trouve ça dans le rapport 2007 de l'experte indépendante sur les minorités. Et notamment ce que ce rapport 2007 appelle les minorités visibles issues de l'immigration. On pointe tout à fait clairement le problème dans ce rapport 2007, plus spécifiquement la minorité musulmane. Ce qui aboutit à un traitement inégal de cette minorité par les autorités françaises et à des contraintes supplémentaires. Donc le dispositif n'est absolument pas vu comme un dispositif neutre, c'est un dispositif anti-islam, ou en tout cas vu comme ça, qui donc vise à lutter contre certaines une visibilité excessive ou certaines revendications excessives de musulmans et qui stigmatisent les musulmans en France. En tout cas, voilà la vision de ces dispositifs. Cette source de blocage va se trouver également l'examen de deux affaires, deux communications individuelles par le Comité des droits de l'homme. Vous le savez très probablement, le Comité des droits de l'homme surveille l'application du pacte onusien de 1966 sur les droits civils et politiques, et il peut, si les États acceptent ce dispositif, recevoir des communications individuelles qui sont une forme allégée de requête qui permet au comité de vérifier si un État respecte bien une ou plusieurs clauses du pacte. Et on a deux affaires qui sont extrêmement intéressantes, qui sont deux affaires Singh pour les deux, 2011 et 2013. La première, c'est l'affaire Ranjit Singh et la deuxième, Shingara Man Singh. Deux faits totalement identiques. Les deux requérants sont des Sikhs qui portent un turban. Et lorsqu'ils vont tenter de faire renouveler leur titre de séjour à la préfecture, ils fournissent une photo avec le turban. Refus des autorités préfectorales qui leur imposent le respect du décret du 30 juin 1946 qui impose que pour le renouvellement, autre chose, mais qui impose que pour le renouvellement des titres de séjour des étrangers, une photo d'identité tête nue est exigée. Voilà le point de blocage dans ces deux affaires de 2011 et 2013. Pour le Comité des droits de l'homme, cette exigence est disproportionnée. Cette exigence faite aux deux Sikhs, à l'auteur des communications, est disproportionnée et cela viole l'article 18 du pacte sur le droit civil et politique qui protège la liberté de religion. Le raisonnement est extrêmement intéressant. Alors d'une part, premier élément du raisonnement, le Comité des droits de l'homme ne voit pas en quoi exiger des photos tête nue permettrait de lutter contre la falsification des titres d'identité. La France, une fois de plus, s'est assez mal défendue devant les organes onusiens. C'est parfois une spécialité française. Et la France a dit « Ah ouais, mais on va mieux lutter contre les falsifications de titres de séjour si les personnes n'ont pas un turban ou autre chose. » Et le Comité des droits de l'homme ne voit pas en quoi les documents peuvent être plus contrefaits ou moins contrefaits si les requérants ont un turban ou pas de turban. Premier argument. Deuxième argument qui est beaucoup plus intéressant, le Comité des droits de l'homme nous indique que l'exigence faite aux deux sites d'apparaître tête nue sur les photos est une entrave beaucoup plus générale à leur liberté de religion parce que lors des contrôles d'identité ultérieurs, qu'ils devront très probablement subir, on leur demandera certainement d'ôter leur turban, probablement en public, ce qui portera atteinte à leur liberté de religion. Donc c'est pas tant l'exigence immédiate de la photo qui pose problème, mais c'est ensuite le fait que l'on va entraver la possibilité ou l'exigence de porter le turban, qui est une exigence tout à fait importante pour les Sikhs ici, y compris dans l'espace public, et donc là on a une violation caractérisée de l'article 18 qu'on pourrait qualifier de prospective ici par le Comité des droits de l'homme. Mais au-delà de ces communications, je vous l'ai déjà un petit peu dit, le point de blocage renvoie surtout dans le cadre onusien à la lecture très critique des lois de 2004 et de la loi de 2010, l'examen périodique universel de la France en 2008, qui est le nouveau mécanisme qui a été mis en place devant le Conseil des droits de l'homme depuis 2006, qui fait que les États, tous les 4 ans, vont être surveillés quant à l'application de leurs obligations d'État membre de l'ONU en matière de protection des droits de l'homme et leur respect des textes de protection internationale. Donc l'examen périodique universel de la France en 2008, lors de dernière précision, oui, lors de l'examen périodique universel, les États peuvent faire des recommandations à l'État et indiquer qu'il faudrait changer telle chose, etc. Et l'État, qui subit le PU, répond. Donc lors de cet EPU de la France en 2008, un grand nombre de questions ont porté, ou de recommandations ont porté sur la loi de 2004. On portait sur la loi de 2004 avec deux cadres de réflexion. Certains États ont demandé à la France des explications sur l'application du texte. C'est le cas du Brésil, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas de l'Uruguay, c'est le cas des États-Unis. Ils ont demandé à la France d'indiquer combien de cas d'exclusion la loi de 2004 avait entraîné, quelle était l'application concrète, est-ce qu'il y avait eu beaucoup de jurisprudence, etc. Et la France a effectivement accepté de fournir un certain nombre de documents et de statistiques sur ce point. Deuxième ordre de critique, beaucoup plus radical, certains États, et vous allez voir la liste, elle est assez caractéristique et pas très étonnante, certains États demandent purement et simplement à la France d'abroger la loi de 2004. Et dans cette liste des États, on trouve le Canada, mais surtout le Bangladesh, l'Égypte, l'Iran, le Koweït, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande. Liste d'États qui ont en commun d'avoir l'islam comme religion soit officielle comme, ou comme religion majoritaire dans l'État. Et à l'évidence, là vous avez l'explication tout à fait claire du blocage. Pour les États où l'islam est religion officielle ou dominante, la loi de 2004 est un dispositif qui stigmatise les musulmans et qui stigmatise notamment les jeunes filles. On retrouve l'avalanche de critiques avec la loi de 2010. Ça n'a pas calmé les choses. C'est le deuxième EPU de la France de 2013. La Nouvelle-Zélande demande à la France une étude approfondie sur l'application de la loi de 2010. Et le Pakistan demande à la France d'abroger ce dispositif. Alors la France essaie de se défendre, et voilà sa position officielle, mais qui ne convainc absolument personne, qu'on trouve dans le cadre de l'EPU, dans le cadre de réponses à des rapports de rapporteurs spéciaux ou à d'autres, dans d'autres organismes. La France martèle l'idée suivante, la loi de 2010 n'est pas une loi religieuse, elle n'est pas une loi religieuse, elle ne se réfère pas au voile intégral. Or, si on prend l'article premier de la loi, elle parle quand même du voile intégral, entre autres choses, mais le port de ces tenues, dit le gouvernement français, est interdit parce qu'il ne respecte pas les bases du vivre ensemble et porte atteinte à la dignité de la personne. Donc, c'est pas une loi religieuse. Effectivement, on s'est arrangé pour que l'article premier ne prohibe pas seulement la burqa ou le niqab, mais prohibe tout dispositif qui permette de dissimuler intégralement le visage dans l'espace public. Et donc, c'est un élément de protection de la dignité humaine et de protection du pacte républicain. Alors là où la France se débrouille assez mal, c'est que quand on lit ces défenses de la loi de 2010, très souvent, un ou deux paragraphes ensuite, la France nous dit, en plus, le dispositif permet d'éviter que les jeunes musulmanes qui portent ces voiles intégraux soient isolés et qu'elles puissent aller à l'école, etc., etc. Il faut savoir, soit ça concerne pas la religion et les jeunes filles musulmanes, soit ça les concerne, mais ici, effectivement, l'approche française est pour le moins peu convaincante. On trouve ça dans la défense de la loi de 2010, dans l'examen périodique universel de 2013. Donc, dispositif stigmatisant vu dans le cadre onusien, a priori, on repasse au niveau européen, ces dispositifs sont plus conformes aux idéaux qui sont promus par le Conseil de l'Europe, parce qu'on va le voir, le Conseil de l'Europe essaie de promouvoir la laïcité comme élément obligatoire, comme composante obligatoire des États démocratiques. Alors ici, on a un arrêt de référence qui semble, là encore, nous accorder un brevet de conventionnalité et protéger notre laïcité. C'est l'arrêt Refa-Partisi contre Turquie de 1993. La laïcité, ça parle de la Turquie, mais on parle du principe général de laïcité dans cet arrêt. La laïcité, nous dit la Cour, est l'un des principes fondateurs de l'État, qui cadre avec la prééminence du droit, le respect des droits de l'homme et de la démocratie. Le fameux triptyque qui est à l'origine du Conseil de l'Europe, qu'on trouve dans le statut de Londres de 1949, les objectifs du Conseil de l'Europe, donc prééminence du droit, qu'on appelle plutôt, nous, généralement, l'état de droit, même si les deux concepts ne sont pas totalement superposables, le respect des droits de l'homme et la démocratie. Et donc, on a l'impression, en lisant cet arrêt Refa-Partisi, que la Cour européenne veut promouvoir le modèle de laïcité. Donc la France serait plutôt un État avant-gardiste dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui serait un État qui protégerait mieux que les autres, comme la Turquie, les caractéristiques de la démocratie avec la mise en avant de la laïcité. Dans l'affaire Leyla Sahin de 2004, dont je vous, enfin, la première version rendue par la Chambre en 2004, la Cour avait été plus précise sur un point et qui arrange les affaires françaises, semble-t-il. La Cour nous dit qu'un État peut parfaitement interdire le port du foulard islamique si ce port nuit à l'objectif de protection des droits et libertés d'autrui, de protection de l'ordre ou de la sécurité publique. Donc, promotion du modèle laïque, de la laïcité, et un des prolongements, possibilité d'interdire de façon assez large le foulard islamique, notamment si cela porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité publique. Cette promotion de la laïcité a abouti à ce que la Cour européenne des droits de l'homme adopte des jurisprudences, vous allez le voir, qui semblent en exact contrepoint des positions onusiennes. On est en décalage de plus en plus vis-à-vis de l'ONU, avec ses dispositifs de laïcité stigmatisante, entre guillemets, et on serait, semble-t-il, de plus en plus conforme aux exigences européennes. Donc on a une séparation entre les valeurs internationales ou universelles et les valeurs régionales du Conseil de l'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme a notamment jugé que décision FUL ou PUL, PHU2L contre France 2005, que l'exigence faite à une personne, et vous allez voir, on va retrouver ici les affaires Singh dans un autre cadre, l'obligation faite à une personne de retirer son turban lors de contrôles de sécurité aux aéroports ne viole pas la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une exigence raisonnable, dit la Cour. Même optique, décision sur la recevabilité Fatima El Morsli contre France 2008, demander à une femme de retirer son voile pour prendre une photo dans une enceinte consulaire pour lui accorder un visa, est tout à fait conforme avec la Convention européenne des droits de l'homme et ne viole pas l'article 9, respecte ici la liberté religieuse de la requérante. Encore plus, et de manière beaucoup plus claire encore, arrêt Dogrou et Kervansi de 2008. La Cour européenne, la Cour de Strasbourg, nous dit que l'interdiction du foulard islamique, pour des raisons notamment de sécurité ou d'hygiène pour des élèves, n'est pas une position déraisonnable. À nouveau, brevet de compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Cour va même un peu plus loin, dans ses arrêts Dogrou et Kervansi, la Cour nous dit que, pour les élèves récalcitrantes, ça peut même conduire jusqu'à l'exclusion des élèves. C'est une position légitime, c'est toujours pas excessif, avec quand même une réserve, à partir du moment où ces élèves peuvent continuer à être scolarisés à distance. Mais on a ici la possibilité d'interdire à l'école, donc la loi de 2004, le voile. Et pour les élèves qui ne voudraient pas se conformer à cette interdiction, des mesures d'exclusion qui peuvent être prises, qui ne violent toujours pas la Convention, qui ne sont toujours pas excessives, ici, à partir du moment donc, où l'enseignement à distance est ouvert. Encore plus, dernier type de référence, ce sont des décisions sur la recevabilité de 2009 des affaires Singh, à nouveau, mais également Actas ou Ghazal ou Beyrak, tout un tas, il y a 5 affaires différentes. La Cour nous dit que la législation française, la législation de 2004, qui prohibe donc le port de signes religieux ostensibles dans les classes des établissements scolaires publics, je cite la Cour, est motivée par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité, qui est un objectif conforme aux valeurs sous-jacentes de la Convention et à la jurisprudence de la Cour. Donc, le dispositif est ici totalement protégé. En interdisant le port de ces signes à l'école, la Cour nous dit que la France a respecté la laïcité, qui est une valeur qui sous-tend la Convention, et donc, à nouveau, pas de violation de l'article 9. Il y a toutefois une réserve, et ça sera le dernier point que je développerai. Ces brevets de conventionnalité doivent toutefois être atténués parce que la Cour européenne a également adopté des jurisprudences qui indiquent que les dispositifs étatiques qui limitent l'exercice de la liberté de religion ne doivent pas être trop généraux. Alors on trouve ici un arrêt intéressant qui pourrait peut-être nous causer quelques soucis très très prochainement, dans une affaire qui vient d'être hautement médiatisée. Cet arrêt, c'est un arrêt Ahmet Arslan contre Turquie de 2010. Et vous allez voir à quoi je fais référence. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que l'interdiction d'une tenue vestimentaire, l'interdiction générale d'une tenue vestimentaire portée dans des lieux publics ouverts à tous, comme les voies ou places publiques, n'est pas conforme à la Convention. Donc l'interdiction générale d'une tenue vestimentaire portée dans les lieux publics ouverts à tous, comme les voies ou places publiques, n'est pas conforme à la Convention. Ahmet Arslan contre Turquie, 2010. Et là, évidemment, le débat apparaît sous un angle un petit peu différent par rapport à l'affaire qui vient d'être examinée par la Cour en audience hier, l'affaire SAS contre France, qui est l'affaire, vous en avez entendu parler, je pense, l'affaire d'une jeune femme qui indique qu'elle est discriminée par la loi de 2010 parce qu'elle souhaite porter le niqab conformément à ses croyances religieuses, et la loi de 2010 ne lui permet pas de décider ou non de porter ce voile intégral dans les voies publiques, sur les voies publiques en France. D'ailleurs, alors j'ai pas eu le temps de regarder, toutes les auditions sont maintenant publiques devant la Cour, donc vous avez ça sur le site de la Cour. C'est assez rigolo, j'ai juste regardé le début des plaidoiries des avocats, et l'un des avocats, c'est un sikh avec un magnifique turban. Donc, l'affaire est également placée sous le cadre des sikhs. Alors il y a, à mon avis, un problème quand même de base, c'est que cette jeune personne n'a fait l'objet d'aucune condamnation en France. Elle a déposé son recours devant la Cour européenne des droits de l'homme le jour même où la loi de 2010 était promulguée. Et si on suit la position qui est adoptée par la Cour, notamment qu'elle avait adoptée dans l'affaire des minarets en Suisse, il y avait également une association islamique qui indiquait que l'interdiction de construire des minarets qui avait été interdite par référendum en Suisse portait atteinte à la liberté de religion. Sauf qu'il n'y avait encore aucune interdiction de construire des minarets sur la base de cette nouvelle législation, et l'affaire a été déclarée irrecevable. L'affaire pourrait bien s'arrêter à ce stade ici. Si l'affaire est jugée recevable, est-ce qu'on sera dans la marge d'appréciation de l'État qui peut interdire les manifestations excessives de la religion dans l'espace public, ou est-ce qu'on est dans l'arrêt Ahmet Arslan qui estime que le dispositif est excessif, même s'il n'est pas totalement religieux, et non conforme à l'article 9, là, j'en sais trop rien. Alors, pour terminer totalement avec ça, les différents blocages que j'ai évoqués démontrent la difficulté de cerner ou de stabiliser peut-être mieux la laïcité. Et je reprends les mots qui avaient été employés par une commission qui avait été célèbre à l'époque, elle est un peu ancienne aujourd'hui, qui était la commission Stasi de 2003, qui avait anticipé les changements législatifs. Et la commission Stasi nous disait que la laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables. Trois valeurs indissociables, vous allez voir, les trois valeurs sont pas toujours faciles à concilier. Liberté de conscience, première valeur. Deuxième valeur, égalité en droit des options spirituelles et religieuses. Et enfin, neutralité du pouvoir politique. Il faut mettre en œuvre de manière équilibrée tout cela. Et il n'est pas sûr que la laïcité positive ou offensive, peut-être davantage, qui est aujourd'hui promue par le législateur, respecte ces trois équilibres. La France pourrait peut-être, mais alors ici les débats sont extrêmement compliqués, la France pourrait peut-être s'inspirer pour être mieux conforme à ses obligations internationales, s'inspirer de ce qui a été mis en œuvre dans certains États, notamment au Québec depuis 2006, qui s'appelle la technique des accommodements raisonnables, qui vise, pour simplifier les choses, mais vous pouvez lire le rapport Taylor-Bouchard de mémoire de 1996 ou 2006, mais il est sur Internet, vous tapez rapport Taylor-Bouchard et vous l'avez. C'est beaucoup plus détaillé, ça concerne d'abord le droit du travail, mais on peut l'étendre à la société. Donc l'accommodement raisonnable consiste à accepter les revendications des minorités, notamment religieuses, à partir du moment où elles ne sont pas, voilà toute la difficulté, déraisonnables, et à partir du moment où elles ne portent pas atteinte au pacte républicain. Alors cela permettrait, et là je termine sur la citation d'un Clément Benelbaz qui a rédigé une thèse récente sur le principe de laïcité en droit public français, c'est la dernière phrase de sa thèse. Clément Benelbaz nous dit que telle position pourrait permettre que la laïcité devienne une loi universelle de régulation sociale afin d'intégrer le fait religieux. Je vous remercie.